Épisode 2. Le royaume des apparences. Quand tu parles des riches Qataris, en fait, tu fais presque un pléonasme. Il n'y a pas vraiment de Qataris pauvres, ça n'existe pas. Bon, je t'apprends rien sans doute, mais c'est pas inutile de le préciser parce que, par exemple, c'est pas le cas en Arabie Saoudite. Or, on compare souvent ces deux pays qui pourtant sont très différents. L'Arabie Saoudite est bien sûr également un pays très riche, grâce au pétrole, pour le coup. Mais le pays est beaucoup plus grand et la population nationale beaucoup plus nombreuse, ce qui fait que tu as plusieurs classes en fait parmi les Saoudiens. Tu as des très riches, des moins riches et des plus pauvres, ce qui n'est pas du tout le cas au Qatar où les Qataris sont très peu nombreux et donc se partagent une richesse colossale. Et qui dit richesse, dit luxe. Ça, c'est le créneau des Qataris. Là encore, hein, j'ai conscience d'être un peu dans le cliché, mais ce luxe, cette culture du paraître, cette exhibition de la richesse, fait partie intégrante de la société Qatari. D'abord parce qu'ils sont très riches, mais depuis récemment, je le redis, hein, ce ne sont pas des nobles depuis des décennies habitués au luxe, au confort. C'est ce que j'appelle des nouveaux riches. Donc tout ça est nouveau, donc on a envie de l'afficher. Et puis, comme les Qataris sont peu nombreux, ils se connaissent à peu près tous et donc se reconnaissent entre eux. Et donc, tu as inévitablement un peu ce jeu de compétition entre eux, celui qui aura la plus belle maison, la plus belle voiture, etc. Tu as vraiment un phénomène du m'as-tu vu extrêmement, extrêmement présent. Alors, tout ça se traduit de plusieurs manières. Et d'ailleurs souvent assez extravagante, c'est ça qui est drôle. Déjà, faut voir les femmes qataries que tu croises dans les centres commerciaux. Ça, c'est un truc qui te saute aux yeux quand t'arrives au Qatar. Donc certes, elles sont toutes habillées en noir pour la plupart, mais voilà que je porte des talons Prada de 15 cm, que je m'affiche avec le dernier sac Louis Vuitton et les dernières lunettes de soleil Dior. Enfin, c'est un peu un sketch. Elles sont toutes apprêtées, maquillées, manucurées. Tout se passe dans les accessoires, parce qu'encore une fois, il faut se démarquer et afficher sa richesse. Ce qui d'ailleurs est assez perturbant parce que, à la base, avec mon regard naïf d'occidental, je les voyais tout en noir et puis voilées. Et donc, j'avais forcément cette image un peu de femme bridée ou réprimée. Alors qu'en fait, et c'est sans doute le but d'ailleurs, avec tous leurs symboles de richesse accrochés sur elles, elles finissent par renvoyer une image de puissance et de supériorité. Ensuite, un truc qui est vraiment essentiel au Qatar, c'est la voiture. Ça, c'est vraiment le moyen d'étaler ta fortune et de montrer ta puissance. Donc de base, c'est hyper important la voiture, de toute façon, parce que le Qatar, c'est un pays où tu te déplaces qu'en bagnole, c'est pas du tout un pays fait pour les piétons. Et donc la voiture, c'est vraiment l'objet phare des Qataris. Donc soit ils sont sur le créneau « je conduis un monstre », donc il s'agit juste d'avoir la plus grosse voiture possible, sachant que la voiture de base au Qatar, c'est déjà le 4x4, hein, comme on vit à moitié dans le désert, donc on est déjà sur des gros modèles. D'ailleurs, je me souviens d'une fois où j'étais dans ma voiture à un feu rouge, voiture normale, hein, une berline, et j'ai tourné la tête et je me suis aperçue que ma tête était au niveau des roues de la voiture d'à côté, tellement c'était un tank. J'avais jamais vu ça. Soit ils sont sur le créneau grosse voiture, soit sur le créneau voiture de sport, voiture de luxe. Personnellement, j'ai jamais vu autant de Lamborghini, Maserati, Ferrari, etc. que pendant mon séjour au Qatar. D'ailleurs, je me souviens, il y avait un endroit à Doha, un quartier un peu animé sur l'île du Pearl, où t'as plein de restos et où la route s'arrête en fait. Donc t'as un cul-de-sac et un rond-point pour faire demi-tour. Et là, chaque soir, t'avais un défilé de bagnoles plus luxueuses les unes que les autres. Et c'était assez marrant à voir parce que t'avais tout un tas de petits troupeaux de mecs, parce qu'en général c'est des garçons, qui paradaient sur leur bolide et qui venaient jusque-là, mais juste pour se montrer quoi. Tu les voyais faire le tour du rond-point, repartir et puis repasser encore et encore, comme s'ils avaient que ça à faire. Et vraiment uniquement pour frimer, c'est assez rigolo. Plus c'est gros, plus c'est luxueux, plus c'est rapide, plus ça fait de bruit, mieux c'est. Tout ça, à la limite, reste assez classique dans le comportement nouveau riche, je dirais. Ce qui est un peu plus original, en revanche, c'est toutes les extravagances qui en découlent. Par exemple, les Qataris ont cette manie de garder à l'intérieur de leur voiture le plastique de protection, tel qu'il est posé quand tu achètes la voiture. Donc quand tu regardes la plupart des voitures des Qataris, elles ont du plastique autour des sièges, autour des accoudoirs, autour du pare-soleil, parfois même autour du volant. C'est vraiment très très bizarre. Un peu, tu sais, comme les Américains qui gardent leur étiquette sur les casquettes. Ben là, c'est un peu pareil. Il faut vraiment que ça reste comme neuf, au sens propre du terme. Autre truc assez hallucinant, c'est ce délire qu'ils ont pour les plaques d'immatriculation. En gros, ce qui va compter, c'est la combinaison de chiffres inscrite sur la plaque. Donc si j'ai bien compris, le plus classe, c'est d'avoir des répétitions de chiffres. Je crois aussi le moins de chiffres possible. Et puis, tu as des chiffres assez importants qui ont un symbole particulier, je sais pas trop, comme le 3 et le 6, il me semble. Si tu t'affiches avec ce genre de plaque, tu es au top. Et donc, tu as des enchères de plaques d'immatriculation, mais attention, ça va très très loin. Je crois que le record du prix de vente est monté à 200 millions de rials, c'est-à-dire à peu près 50 millions d'euros, pour avoir la plaque la plus belle, la plus rare, la plus je sais pas quoi. C'est juste quand même ahurissant. Et d'ailleurs, il existe la même chose pour les numéros de téléphone. Du coup, je sais pas trop ce que les Qataris ont avec les chiffres, mais je sais qu'ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent également pour avoir un numéro de téléphone un peu stylé, facile à retenir, avec encore une fois telle ou telle combinaison de chiffres. Ça te montre jusqu'où ils peuvent aller en termes de caprices de riches, ou en tout cas de lubies complètement hors normes. Et alors le comble, c'est qu'à côté de ça, t'as de plus en plus d'endettement au Qatar. Alors je vais pas complètement entrer dans les détails parce que c'est assez compliqué, il y a plusieurs raisons à ça, mais une des raisons principales, c'est le mariage, qui coûte extrêmement cher, parce que bien sûr, encore une fois, ils font les choses en grand, il faut toujours faire mieux que le cousin ou le voisin, louer la plus grande salle, avoir les plus beaux habits, le plus gros traiteur... Mais donc, ça amène un certain nombre de Qataris, j'ai lu beaucoup, beaucoup d'articles là-dessus, des hommes en général, à s'endetter. Notamment aussi parce que, donc, après le mariage, ils subviennent souvent aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants. Donc, de plus en plus d'endettement au Qatar, voilà pour la petite anecdote. En tout cas, même si tout ça fait un peu sourire, parce que évidemment, quand on évoque ces dépenses complètement démesurées, on ne comprend pas toujours bien ce besoin d'étaler à ce point sa richesse. En tout cas, moi, je ne le comprends pas. À mon sens, moi, c'est comme ça que je l'analyse. En tout cas, tout ça, c'est pas juste pour montrer qu'on est riche, mais aussi pour se démarquer du reste de la population. Un peu comme une caste, au final. L'air de dire, nous, Qataris, qui avons accès à tout ça, nous sommes le peuple dominant. Derrière ça, t'as aussi ce complexe d'infériorité qui, en fait, dicte pas mal de choses dans la société qatari. Parce que, encore une fois, ils sont si peu nombreux dans leur propre pays qu'ils ont sans cesse ce besoin de se réaffirmer comme les souverains. Et donc, le message derrière tout ça, c'est « Ok, on n'est pas beaucoup, mais regardez comme on est puissant, c'est nous les chefs ».